Ou rester debout, si vous voulez. Mais... Pourquoi ce chant ? Alors, nous avons entamé dimanche dernier une série de prédications qui va s'étaler sur quelques semaines autour du projet de l'Église pour 2023-2024. Tout le monde a vu ce papier, je suppose. En tout cas, je crois qu'il y en a à la sortie, sur la table, il y en avait en tout cas. Et une des thématiques sur laquelle j'ai choisi de vous parler ce matin... C'est œuvrer pour une église intergénérationnelle. Alors, intergénérationnelle, c'est un grand mot. Il suffit de... de regarder. Non, parce qu'une partie de l'église est descendue en bas, les plus jeunes. Donc là, il ne reste que les moins plus jeunes, quoi, si j'ose dire. Hein, d'accord. Je ne vais pas dire les plus vieux, mais... Une église intergénérationnelle, et c'est pour ça que j'ai choisi ce chant pour commencer, ça veut dire comment faire en sorte que notre Église vive véritablement comme une famille. Dans une famille, il y a des jeunes, des moins jeunes, des enfants, il y a plusieurs générations. Alors, on n'est pas toujours ensemble tout le temps, mais il y a des moments où on se retrouve. Et en tout cas, on sait qu'on fait partie d'un ensemble qui nous dépasse largement et qui dépasse même notre tranche d'âge, par exemple, ce que nous vivons au jour le jour. Alors, comment parler de cette question-là ? J'ai choisi de commencer par prendre l'exemple d'une famille dans la Bible. Une famille pas mal dysfonctionnelle, on dirait ça comme ça aujourd'hui, si j'ose dire. Isaac et Rebecca. Vous connaissez Isaac et Rebecca. Isaac, l'enfant tardif d'Abraham, l'enfant chéri de sa maman, qui, à 40 ans, n'était pas marié, donc son père envoie un serviteur pour trouver la femme qu'il lui faut, qui va bien, et elle s'appelle Rebecca, il la ramène avec lui. Et puis, on a l'impression au début que les choses se passent bien. C'est dans Genèse, à partir du chapitre 25, donc je vais prendre quelques versets par-ci, par-là, vous aurez tout loisir de lire l'histoire en entier, rentrer chez vous. Mais au chapitre 25 de la Genèse, verset 21, Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel entendit sa supplication. Sa femme Rebecca devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel qui lui dit « Deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Ça semble avoir bien commencé. Il y a une difficulté dans le couple, voilà, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils consultent l'Éternel. On se tourne vers Dieu quand on a une difficulté dans la famille. Et Dieu répond, puisque non seulement elle devient enceinte, mais même elle devient enceinte au double. Ils demandaient un enfant et on lui en donne deux pour le prix d'un, si j'ose dire. D'accord ? Donc Dieu a répondu. Donc tout part bien, superbe. Et puis très rapidement, quand on lit l'histoire... On s'aperçoit que la vie de famille, ce n'est pas toujours simple, tout simplement. Disons ça comme ça, et chacun ici peut comparer ça à sa propre histoire. Au verset 27, les garçons grandirent, donc il s'agit de Jacob et Ésaü. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, et Jacob était un homme tranquille qui restait volontiers dans la tente. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier, et Rebecca aimait Jacob. Premier indice que dans la famille, c'est pas simple. Les parents sont pas d'accord. Il y en a un qui préfère le fils parce que c'est un costaud, il va à la chasse, il lui ramène de quoi faire des bons gueuletons, je sais pas, enfin voilà, tout ça. On imagine, chacun a des images dans sa tête, et c'est pas faux. Et puis Jacob, lui, qui préférait rester dans un fauteuil à bouquiner, ou je sais pas quoi, ou faire des mots croisés, enfin peu importe. Et donc il était près de sa maman, qui pouvait tout le temps lui demander un petit quelque chose. Voilà, j'imagine, là, je rajoute des illustrations, mais il y a un peu de ça quand même. Et du coup, les parents se divisent d'une certaine manière. Et si on nous dit que c'était à ce point invisible, c'est que ça devait se traduire dans des événements de tous les jours où les enfants sentent ces choses-là. Et la vie de famille en est perturbée. Et alors, bon, juste après ça, vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, l'histoire, ça a introduit une rivalité, ce qui fait qu'un jour, Ésaü rentre de la chasse, il est crevé, et là, son frangin est en train de faire à manger, et donc il lui dit, j'ai faim, donne-moi à manger. Alors bon... L'histoire, de façon très, très résumée, nous dit qu'il a échangé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Alors bon, ça nous paraît énorme. Donc ça mériterait une grosse, grosse étude hein, pour voir ce que ça veut dire, le droit d'aînesse, etc. Mais peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que dans cette rivalité que les parents entretenaient, dans la famille qui était dysfonctionnelle, comme je disais tout à l'heure, eh ben, y en a un qui en profite pour gruger l'autre. Voilà. Donc, sans unité familiale, sans unité au niveau de ceux qui portent le foyer, c'est la porte ouverte à des magouilles, des comportements déviants, des choses qui dérapent. Et rien dans le texte nous dit qu'il y a eu une quelconque réaction. Parce que ça s'est su, on peut dire, les parents auraient pu convoquer Jacob, tac, et puis, enfin, je sais pas, on peut imaginer comment on ferait, nous, les parents, si on s'apercevait qu'un de nos enfants faisait un coup pareil à un autre de nos enfants. Alors là, on les convoque tous, et puis ça va chauffer, quoi. Et là, non, on n'entend rien du tout. Il n'y a pas de réaction, et donc la famille reste dysfonctionnelle. Et ce différent qui a été créé entre Jacob et Ésaü, l'un qui s'est moqué de l'autre et qui lui a piqué quelque chose d'important dans la civilisation de l'époque, n'est pas poursuivi. Enfin, il ne se passe rien derrière ça. Donc c'est la porte ouverte à des comportements déviants. Et puis comme ça, la situation n'est pas gérée, Ésaü, sans que personne s'occupe de lui, on s'en fiche qu'il ait perdu son droit d'aînesse, donc il s'éloigne. Et quand on regarde un petit peu à la fin du chapitre 26, un petit verset, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, femme de Béri le Hittite, et Basmat, fille d'Élon le Hittite, elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. Mais ça continue, hein. Les choses n'ont pas été réglées. Elles n'ont pas été traitées. Et donc, le différend familial, le fossé se creuse, si j'ose dire. Et Ésaü, il va donc trahir, en quelque sorte, le fait qu'il était un des héritiers de la promesse faite à Abraham. Et il va s'écarter en prenant des femmes chez les Hittites. Donc là aussi, il ne faut pas comparer ça de façon trop rapide à nos situations d'aujourd'hui. Mais c'était quelque chose d'important. C'est en quelque sorte un affront qu'il faisait à ses parents en choisissant d'aller épouser des femmes de tribus ennemies. Et cela fut un sujet d'amertume pour Isaac. Ah, tiens, là, ce coup-ci, Isaac et Rebecca, tous les deux, ils se rendent compte que la vie est difficile quand même. Et puis le clou de l'histoire. Alors, le clou de l'histoire, évidemment, vous le connaissez dans cette famille un peu dysfonctionnelle. Un coup, Isaac, très âgé, dit à son fils, va à la chasse, ramène-moi quelque chose et tu me feras un bon repas et je te donnerai ma bénédiction. Alors donner la bénédiction, vraisemblablement, c'était quelque chose en lien avec je te transmettrai mon héritage. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, même si c'est traduit avec des phrases très, très religieuses. Et Rebecca, elle a entendu. Alors est-ce qu'elle espionnait? Est-ce qu'elle était cachée derrière la tente? Ou est-ce que par hasard, elle a entendu les choses? L'histoire ne le dit pas, mais bref, elle entend ça. Et du coup, elle appelle son fils Jacob et lui dit « Tiens, ton père a dit ça, dépêche-toi, va me chercher un chevreau, je vais lui faire une tambouille comme il aime bien. Et comme ça, c'est toi qui recevras la bénédiction, c'est toi qui auras l'héritage. » La famille dysfonctionnelle qui continue à dysfonctionner, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que Jacob, il entend ça. Ce qui le choque, ce n'est pas le côté éthique de l'affaire, où on est encore une fois en train de s'embarquer dans des aventures. C'est juste que ce n'est pas possible, parce que moi, je n'ai pas de poils, et Ésaü, il est tout velu, et mon père verra la différence. C'est assez amusant. Quand on est parti dans le mensonge, dans le déni, dans la dysfonction, si je continue à utiliser ce mot-là, plus rien ne nous arrête. Et en ce qui concerne Rebecca et Jacob, ils sont prêts à aller jusqu'au bout, de faire triompher leur idée, parce que Rebecca était certainement persuadée que c'était Jacob qui devait avoir l'héritage de son père, et pas cette espèce de grosse brute d'Ésaü qui pensait qu'à aller chasser, etc. Hein, d'accord, on imagine des choses de cet ordre-là. Encore une fois, vous avez le droit d'avoir une interprétation un peu plus modérée ou différente, mais le mensonge appelle un autre mensonge. Et l'éloignement et la dysfonction entraînent une autre dysfonction. On ne peut plus reculer. Et vous connaissez la fin, évidemment. La machination a opéré. Et donc, Jacob a reçu la bénédiction de son père. Sauf que derrière ça, Ésaü, lui, il n'a qu'une envie, c'est de zigouiller son frère. Parce qu'il dit, ça fait quand même deux fois que je me fais posséder comme ça. Et la seule solution, c'est la rupture. Et Jacob est obligé de s'éloigner. Et il est obligé de s'éloigner, non pas comme va le dire sa mère, parce qu'il vaut mieux qu'il aille trouver une femme dans les bons endroits, etc., mais simplement parce que son frère voulait lui faire la peau. Hein, c'est le chapitre 27. Voilà une famille dysfonctionnelle. Et malgré tout, ce qu'il faut quand même ne jamais oublier quand on étudie cette chose-là, c'est que Jacob s'en va, donc dans les dispositions que je viens de dire, et sur son chemin, Dieu le rencontre. Et il y a ce rêve extraordinaire, vous savez, Jacob, il est, à un moment, il s'est couché, il dort là, quelque part, il fait un rêve, il voit une échelle avec les anges qui montent et qui descendent et qui font le lien entre la terre et le ciel où est Dieu. Et il dit, voilà, je reconnais que ici c'est la maison de Dieu. Et oui, chez lui, ce n'était pas vraiment la maison de Dieu. Il y avait trop de dissensions, il y avait trop de difficultés, il y avait trop de, je disais, dysfonctionnement tout à l'heure. Alors que là, il est tout seul maintenant, et là, il se retrouve face à son Dieu. Et son Dieu, malgré la fausseté, malgré les mensonges, malgré les difficultés, et lui tend la main en lui disant, voilà, si tu me sers, si tu es fidèle, alors moi aussi je serai fidèle. Alors, bon, c'est une famille vraiment dysfonctionnelle, et en plus, je n'ai pas hésité à en rajouter. Donc, ils ne sont vraiment pas bien, ces gens-là. Toute ressemblance avec notre Église, évidemment, serait exagérée. Mais que tirer de ce rapide parcours biblique en lien avec notre thématique, une Église intergénérationnelle, dans laquelle se nouent des relations qui peuvent ressembler, ou on souhaite qu'elles ne ressemblent pas trop, à ce que je viens de décrire à gros traits dans la famille de Isaac et de Rebecca. La première des choses, et vous l'avez bien compris, c'est qu'il y avait une préférence, des différences qui étaient faites. Moi, je préfère Ésaü, moi, je préfère Jacob. Je fais une différence entre les deux. Et non seulement je les préfère parce que c'est un sentiment comme ça, ça peut arriver quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Dans les familles, on a tous un peu des enfants avec lesquels ça, plus facilement on est en dialogue, etc. Mais non seulement on les préfère, mais on est capable d'aller jusqu'au bout de cela pour faire triompher le fait que moi, je pense que c'est lui le meilleur. Il y a un autre exemple dans la Bible qui est assez connu, c'est la façon dont Bethsabée, la femme de David, a œuvré et a manigancé pour que Salomon finisse par avoir la royauté de la part de son père. Vous lirez ça, c'est dans le livre des rois. On a la même chose, des familles dysfonctionnelles. Des préférences, des différences. Et je pense que c'est l'occasion de rappeler que, par exemple, Jésus, quand des enfants viennent le voir et qu'ils s'occupent d'eux, les disciples disent « Attends, mais c'est pas... Soyons sérieux, quoi. Ici, on est dans un monde d'adultes. » Et la réaction de Jésus, c'est « Mais laissez les enfants venir à moi, car à de tels appartient le royaume des cieux. Autour de moi, il est normal que j'ai des adultes, mais aussi des enfants, parce que tous ensemble, nous allons former ce royaume de Dieu et cette famille de Dieu. » Ça aussi, c'est important pour nous ici à Vendeuvre. Alors bon, on les chasse au bout d'une demi-heure, hein, mais on les aime quand même, hein, c'est bien. On sera content de les revoir. Voilà, non, c'était... Après, il y a une organisation qui est mise en place. Mais il faut réfléchir à ça quand même, à ce que ça ne donne pas ce sentiment qu'il y a deux églises. Voilà, je pense que c'est important d'avoir cette idée en tête. Et puis on peut citer aussi les instructions que Paul donne, enfin, dans les Galates par exemple, hein, où il n'y a ni esclave, ni homme libre, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, mais on est tous un en Jésus-Christ. Et dans l'Église, il faut véritablement que cela se sente et que cela soit fondamental. Il n'y a pas de différence. Chacun, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur sont d'égale valeur et d'égale qualité, même si après certains remplissent certaines fonctions, et que là aujourd'hui c'est moi qui suis devant le micro, et pareil, pas tout le monde, mais ça ne donne pas une valeur particulière à certains par rapport à d'autres. Et puis, deuxième leçon qu'on peut tirer, s'il y a quelque chose qui dérape, ça peut arriver. Là, ce que j'appellerais le premier dérapage, c'est quand Ésaü échange le plat de lentilles contre son droit d'aînesse. On va dire que c'est un dérapage. Là, il s'est fait piéger. Il ne doit pas être très malin, quand même, le gars. Enfin, bon. Moi aussi, je préfère Jacob. Enfin, bon, faut pas le dire. Mais... Non, mais bon, bref. Et il y a quelque chose qui se passe, qui va de travers. Alors, comment ne pas laisser pourrir la situation ? Comment il aurait fallu qu'il fasse ? Et là aussi, on peut donner libre cours à votre imagination. Essayez d'imaginer ce qui se serait passé si, je sais pas, Jacob était retourné voir Ésaü en disant « Attends, mais c'est complètement débile ce qu'on a fait, c'est pas comme ça que ça doit se passer, on va aller voir les parents, ils vont... » Je sais pas, on peut imaginer aussi un scénario comme celui-là. Comment est-ce qu'il faut faire quand dans l'Église, entre nous, dans les générations différentes, etc., il y a quelque chose qui accroche, une incompréhension. Et puis, si on fait rien, on sent que bah, ça peut s'envenimer, quoi. Ça peut perdurer. Et puis, on a vu dans l'histoire de Jacob et d'Ésaü qu'une petite chose peut en entraîner une moyenne qui elle-même en entraîne une plus grosse, jusqu'à quelque chose qui ressemble à la rupture. Et j'aime bien le texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, dans ce grand passage d'instruction que Jésus donne, où nous lisons « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, alors laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis viens présenter ton offrande. » Je trouve que c'est très fort. C'est pas seulement si tu te souviens qu'on t'a fait du tort. C'est pas seulement si tu te rappelles que tu as fait du tort à quelqu'un. Mais tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Pourquoi ? Ben, je ne sais pas, c'est pas. Et ça n'est pas important. Et ce qui est secondaire, c'est dans cette circonstance-là, après les choses doivent peut-être se régler, ce qui est important, c'est qu'il y a discordance avec un frère, une sœur. Il y a quelque chose qui va pas bien. Il faut le régler. Et pas besoin de savoir qui a fait tort à l'autre, qui est le fautif, qui a raison, qui n'a pas raison. Et c'est pas ça le sujet. La première des choses, c'est laisse tout ce que tu es en train de faire. Tiens, on parlait de prendre le temps. Et là, il faut prendre le temps d'aller voir l'autre et de faire le premier pas. S'il y a un différent dans notre Église, et en particulier lié à l'intergénérationnel, il faut penser à ça. Ne disons pas, moi qui quand même, je suis jeune depuis beaucoup plus longtemps que vous, donc j'ai raison, n'est-ce pas ? Voilà. On ne peut pas dire les choses. Non, mais beaucoup de nos relations humaines sont basées sur des choses comme cela, qui peuvent faire beaucoup de tort. Si tu te souviens, toi, vous voyez, j'aime bien ce verset. Si tu te souviens, tu es en train de marcher, tu vas offrir ton offrande, là, tu vas vers le temple, et tout d'un coup, tu te souviens, oh là là, je vais croiser un tel, et on n'arrive plus à se parler, ça fait 6 mois. Qu'est-ce que je fais pour éviter que ce petit dysfonctionnement, qui peut être dû à peu de choses, se transforme en un feu qui va aller plus loin que ça? Et puis, si on continue le parallèle avec l'histoire de Jacob et Ésaü, quand le différent est trop grand, si vraiment il y a des... Voilà, il peut y avoir aussi des façons de voir les choses qui font qu'on a du mal à être ensemble. Hein. On prend toujours l'exemple de l'apôtre Paul qui a été avec certains collaborateurs au début, puis après, bah, ils se sont séparés parce qu'ils n'avaient pas la même vision du travail missionnaire, par exemple. Bon, si vous lisez vraiment bien tout le Nouveau Testament, ils se sont retrouvés après, hein, avec Paul, avec Marc. Mais... est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout pour faire valoir nos droits ? J'ai raison, théologiquement, j'ai raison. Ce que je dis est biblique. Vous savez, cette expression-là qui fait parfois un peu frémir, parce que c'est moi qui décide que les choses sont bibliques. Alors, voilà, il faut être des fois un peu modeste et se laisser aider par d'autres pour déterminer si ce que je dis est juste ou pas. Vous savez, il y a une parabole que Jésus raconte. Il raconte quelqu'un qui plante une vigne, voilà, et puis ça prospère. Puis, au bout d'un moment, il envoie des gens pour récupérer le produit de la récolte. Donc, il envoie ses serviteurs qui se font houspiller. Il en envoie d'autres qui se font rouer de coups. Puis, il finit par dire, j'en vais envoyer mon fils, comme ça, au moins, ils le respecteront. Et ce que la parabole raconte, c'est que les gens, ils tuent le fils, finalement. Et Jésus dit, mais que fera le maître de maison ? Et les gens qui l'écoutent tout de suite, il fera mourir misérablement tous ces misérables. Toc, tout le monde, voilà. Il ira jusqu'au bout. Et quand on lit ça, il faut le comparer à l'attitude qu'a eue Jésus lui-même, où il a fait exactement l'inverse. Quand il a été accusé à tort, il n'a pas ouvert la bouche. Quand il a été mis à mort, il y est resté. Quand Pierre a sorti son épée pour, sûrement pas pour couper l'oreille, il voulait couper plus que l'oreille, on peut supposer. Quand il a, vous savez, Pierre, quand Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémané, il y a un de ses disciples qui sort son épée et il rate son coup et il coupe seulement l'oreille. Et Jésus lui dit, mais tu sais pas que si je voulais, je pourrais demander à mon Père qu'il m'enverrait 12 légions d'anges pour venir à mon secours. Jésus a refusé d'aller jusqu'au bout de ce qui était son droit, si on ose parler comme ça, lui qui était le Fils de Dieu, et il a accepté d'aller jusqu'au bout de souffrir quelque chose qui était injuste, quelque chose qu'il ne méritait pas. L'apôtre Paul pointe pour l'église de Corinthe le fait qu'ils étaient capables d'aller au tribunal entre frères et sœurs. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 4, quand vous avez des différends, Ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous, mais pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Je pense que ça, c'est quelque chose de très vrai. Quand il y a des situations compliquées dans lesquelles on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir, on a envie de gagner quand même, est-ce que nous sommes prêts à faire un pas en arrière ? Au lieu de dire « je fais encore un pas en avant pour démontrer que j'ai quand même raison ». Et c'est là peut-être ce qu'on appelle la non-violence, qui d'une certaine manière accepte de reculer d'un pas juste pour éviter d'aller jusqu'au bout d'une confrontation. Donc voilà quelques éléments qui me semblent intéressants de tirer de cette aventure de Jacob, d'Ésaü, de cette histoire de l'Ancien Testament qui sont écrites pour notre instruction aujourd'hui. Alors, bon, maintenant, essayons quand même de traiter le sujet qui m'était imparti, l'Église intergénérationnelle, puisque tout ça peut s'appliquer à cette question-là. Pourquoi ? Parce que dans l'Église, les générations se succèdent et, bon, légitimement, nous transmettons des choses aux générations qui vont venir. Et qu'est-ce que je transmets ? Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que nous voulons transmettre ? Ben déjà, tout ce qu'on vient de dire, tous ces exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Et l'exemple de la vie de Rebecca et d'Isaac peut nous servir pour pointer du doigt certains de nos comportements où là, on dérape, et en particulier dans les relations intergénérationnelles entre les adultes et les jeunes, et puis entre les adultes et les vieux, quoi, hein, par exemple. Parce qu'intergénérationnel, ce n'est pas seulement avec les enfants, hein, c'est aussi avec les personnes qui sont peut-être plus âgées que la moyenne d'âge de l'Église. Hein, il faut le voir à tous les échelons. Et donc, voilà, je cite deux textes, un dans un psaume, psaume 78, psaume d'Asaph. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement, tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Ils mettront leur assurance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements. Et ce texte du psaume 78 me fait penser au début de la première épître de l'apôtre Jean, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Voilà ce qui doit être transmis d'une génération à l'autre d'abord. C'est ce pourquoi nous sommes ici, c'est-à-dire les louanges de Dieu, le souvenir de sa puissance, de ses miracles. Et quand on voit l'Église telle qu'elle est aujourd'hui et qu'on y est depuis un certain nombre d'années, n'est-ce pas, Agathe ? On ne peut qu'être reconnaissant de voir tous les miracles, j'appelle ça les miracles, que Dieu a fait. Ce n'est pas des miracles au sens où on aimerait les voir parfois, mais c'est quand même miraculeux de voir cela. Et ça, il faut le transmettre, et ça fait partie des choses que nous pouvons, nous, faire vivre à nos enfants, faire vivre aux générations qui viennent, comme c'est ce que nous avons vu, ce que nous avons connu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vécu avec le Seigneur. C'est ça que nous avons à transmettre. Et c'est de ça que notre vie doit transpirer, si j'ose dire, pour que peut-être même sans parole, ces choses-là deviennent réalité. Voilà l'essentiel, voilà le message, voilà ce qui doit être transmis de génération en génération. Alors c'est vrai que parfois, et toujours, ça passe par des organisations humaines, évidemment. L'Église, c'est aussi un groupement humain, et il faut bien qu'on mette un peu de règles, des programmes, voilà. On nous a donné tout à l'heure quelques éléments sur le calendrier. Enfin, ouais. Il y a des gens qui sont chargés de mettre tout ça en musique, si j'ose dire, tout au long de l'année. Et dans cette façon de s'organiser, attention que la lettre soit pas plus importante que l'esprit. L'objectif, c'est pas de faire les choses parce qu'on les a toujours fait et que comme ça, ça marche bien. Bon, ça peut être une raison, et je suis pas contre le culte le dimanche matin, hein, au contraire. Je pense que c'est un très bon moment où on se rassemble. Mais ce qui est important, c'est de rappeler à chaque fois pour quelle raison on est là aujourd'hui. C'est pas juste l'association des pêcheurs à la ligne, quoi. C'est pas de ça qu'on parle. On vient partager ce qu'on a vécu, entendu, vécu avec le Seigneur. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et chaque fois que l'Église fait quelque chose, se réunit ou pas d'ailleurs, ou fait des choses de façon plus dispersée, c'est aussi pour partager ce que nous vivons et ce que nous voulons transmettre, parce que nous l'avons vécu avec le Seigneur. Alors, la question, c'est comment être sûr tout le temps que ce que je transmets, ce que je dis, c'est ce que Dieu veut vraiment dire aujourd'hui à son Église. Et bon, alors moi qui suis un peu plus vieux quand même que pas mal d'entre vous, c'est quand même une réalité, hein. Faut pas le nier. C'est vrai qu'on peut aussi, on est marqué par ce qu'on a vécu. J'aime bien prendre l'exemple de la musique dans l'église, hein, c'est un bel exemple. Moi j'ai grandi dans une église, il n'y avait pas d'instruments au culte. C'était pas bien, parce que les instruments c'était le monde. C'était terrible, les guitares, bon, c'était les yéyés, tout ça. Enfin bref, vous imaginez tout ce que... Ben oui. Bon, puis en plus tout le monde était en costume cravate en plus. Hein, donc, voilà, c'était un certain style. Voilà. Aujourd'hui, ben, on a une batterie, etc. Alors bon, est-ce qu'il aurait fallu l'interdire? Et certains, encore aujourd'hui, ont beaucoup de mal avec cette musique dans l'église. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le type d'instrument, le type de musique, la façon de faire? Ou est-ce que c'est ce qu'il y a dans les chants? Et voilà, vous n'êtes pas sans savoir que parfois je préfère certains vieux cantiques à certains chants du j'aime 3 ou j'aime 4. Bon, ok, mais ça c'est mon problème. C'est pas quelque chose qui doit imprégner la vie de l'Église. Jean-Sébastien Bach, hein, qui a écrit des choses extraordinaires, des chorales qui sont des cantiques d'aujourd'hui, très souvent s'est inspiré de musique populaire et de chants populaires des villageois, dont il a repris la musique parce que comme ça elle était facile, parce qu'elle était connue, sur lesquels il a mis les paroles de sa foi pour exprimer ce qu'il avait envie d'exprimer. Voilà un exemple dans lequel... Quand l'Église s'organise, quand elle vit, elle doit être attentive à... Mais alors, je dirais à l'inverse, hein, que les jeunes respectent un peu les vieux aussi. Mettez-moi des vieux cantiques de temps en temps, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir. Et comme ça, tout le monde en a pour son compte. D'accord ? Il ne faut pas oublier que c'est dans tous les sens. Parce que le monde change très vite autour de nous. Le monde change très vite et nous ne pouvons pas éviter d'avoir besoin d'intégrer un certain nombre de ces changements, au moins dans nos façons de voir le monde autour de nous. Non seulement les jeunes n'écoutent pas la même musique que nous on écoutait, encore que certaines musiques que j'écoutais, bon, elles sont encore pas mal. Non, je suis capable d'aller plus loin que Bach et Handel, hein, c'est bon, vous inquiétez pas. Si je vous disais les groupes pop que j'écoute, vous seriez peut-être horrifié, j'en sais rien. Un de mes enfants m'a offert pour Noël d'aller à un concert de Yes, le groupe Yes. Vous connaissez le groupe Yes, hein? Mais toi oui, parce que toi, on est presque la même génération, mais les autres ne connaissent pas. C'était un groupe pop des années 70, voilà, qui s'est reconstitué, etc. Bon. Donc on ne peut pas éviter. Plus sérieusement, il y a des sujets plus importants que la musique. Le monde autour de nous change, véhicule des idées, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on les intègre, comment est-ce qu'on fait en sorte que notre Église ne se déchire pas sur des choses comme celle-là. Comme par exemple, je sais pas, la pratique religieuse. C'est vrai qu'il y a quelques générations, c'était normal qu'on allait dans l'église où on était né. Voilà, il y avait une pratique. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique-là. La compréhension du mariage, par exemple, ou de la peine de mort, ou de l'avortement, etc., qui refait surface, qui fait beaucoup, beaucoup parler. On ne peut pas éviter d'être impacté par ces évolutions de la société. Je ne dis pas qu'il faut être d'accord avec tout ce qui se fait, ce qui se dit, mais on ne peut pas empêcher qu'en particulier les jeunes générations sont interrogatifs, pour le moins, sur un certain nombre de sujets qui nous paraissaient nous définitivement réglés, parce que ça fait longtemps qu'on les a classés comme étant justement ayant une solution. Alors faudrait-il faire comme Moïse le préconisait dans Deutéronome au chapitre 31. Moïse écrivit la loi, la remit aux sacrificateurs, et il leur dit au bout de 7 ans, à l'époque de l'année de la remise, à la fête des huttes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, tu liras cette loi devant tout Israël pour qu'ils l'entendent. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'immigrant qui réside avec toi, afin qu'ils l'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs fils, qui ne la connaissent pas, l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le territoire, etc. etc. Alors peut-être faudrait-il de temps en temps faire des séances où véritablement on lit la parole. Je crois qu'on est très attentif dans l'Église à partager la parole de Dieu. Le temps de prédication est un des exemples, mais pas seulement. Mais imaginez, je ne sais pas, peut-être que tous les 7 ans, on relise la Constitution française. Qu'il y ait un grand événement, voilà. C'était ça qui était dit, c'est régulièrement, il faut se replonger là-dedans. Alors, soyons rassurés, pas plus que nous, le peuple d'Israël ne l'a pas fait manifestement, puisque quand on voit le début du livre des juges, il nous est dit que quelques générations après, les gens ne connaissaient pas la parole de l'Éternel, et chacun faisait ce qui lui plaisait, hein. C'est le début du livre des juges. Mais ça veut dire que, voilà, notre ancrage est ce qui fait véritablement l'essentiel de ce que nous avons à transmettre et à nous transmettre de génération en génération, ou à toutes les personnes qui viennent dans l'Église. L'essentiel, l'ancrage, c'est ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a ce texte qu'on appelle le schéma Israël, « Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est un seul Dieu », etc. Et qui se poursuit en disant tu l'auras toujours avec toi, tu l'auras quand tu pars en voyage avec toi, tu l'auras quand tu dors, tu te le mettras comme quelque chose sur ton front, comme des choses sur ton bras ou sur les linteaux et les poteaux de ta maison. Tu auras la parole de l'Éternel en permanence avec toi. Il n'y a pas longtemps, on était chez des amis à Paris. Et on monte voilà, à l'ascenseur, il y avait plusieurs portes sur le palier, et sur une des portes, il y avait effectivement un petit morceau de la Torah, et bon, c'était la personne, était manifestement, d'ailleurs ils nous l'ont dit, oui, c'est quelqu'un qui était de confession juive, et qui avait ce petit morceau de la Torah, et chaque fois qu'il rentrait chez lui, il allait toucher ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse des choses pareilles, c'est pas ça, mais que nous soyons environnés dans notre tête, dans notre esprit, dans nos façons de concevoir la vie, et de nous organiser entre nous, par la parole de Dieu qui nous donne tellement d'éclairage et tellement de lumière sur ce qui est indispensable. Et en particulier dans l'exemple que nous donnons aux enfants, j'ai trouvé ça un texte, c'est un pasteur de l'Église réformée qui dit « On peut parler de la prière, expliquer son sens aux enfants, mais s'ils ne prient jamais en famille ou en église, comment se rendraient-ils compte qu'elle peut être un soutien dans leur vie ? On peut transmettre à l'école du dimanche une bonne connaissance de la Bible ? Mais si les enfants ne font pas l'expérience que ces textes ont quelque chose à leur dire dans leur vie quotidienne, elle restera de l'ordre d'un apprentissage scolaire. Notre défi aujourd'hui est de faire le pont entre connaissance et expérience. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vécu avec le Seigneur, voilà ce que nous avons à transmettre. Alors je vois que l'heure passe et je vais conclure. Hein, mais il faut prendre le temps, il nous a dit. Mais merci de prendre le temps pour m'écouter. C'est vrai que c'était le thème du jour. Et en conclusion, ou en approchant de la conclusion, parce que vous savez, c'est comme ces gens qui font des grands discours et qui trois fois disent « je vais conclure » et puis hop, ils repartent sur autre chose. Donc vous n'êtes pas trop pressés. Non, je voudrais quand même souligner un dernier point. Parce que quand on parle d'intergénérationnel, et beaucoup de textes qu'on a lus le soulignent, on parle toujours de la transmission des anciens aux plus jeunes. La façon dont les anciens apprennent les choses aux plus jeunes. Ce n'est pas illégitime, hein, c'est un peu le principe éducatif de base. Les parents enseignent des choses à leurs enfants, les professeurs en général ont un auditoire qui est plus jeune qu'eux. Donc il y a un sens de transmission comme cela. Mais pour que ce soit vraiment intergénérationnel, que notre Église vive véritablement ces choses-là le plus profondément possible, acceptons nous aussi, les plus anciens, que des jeunes nous guident et nous apprennent et transforment notre façon de voir les choses. J'ai mentionné la musique tout à l'heure, bon, c'est un exemple, mais on peut penser, je sais pas, le digital par exemple. C'est sûr que aujourd'hui, tous les jeunes qui vivent autour de l'Église de Vendeur et avec lesquels les uns et les autres, nous sommes en contact, sont nés avec un téléphone portable à la main ou quelque chose de ce genre-là. C'est bien, c'est mal, je ne sais pas. Il y a des aspects bien, il y a des aspects, vous savez, dans tout ce que fait l'homme, même si c'est en général très bien et sur le plan technologique, et je suis ingénieur, donc j'aime bien ça. Mais il y a aussi des applications négatives qui en sont faites. Donc les réseaux sociaux, le digital, le numérique, tout ça. Mais comment est-ce que ça peut influer la façon dont notre Église va vivre demain ? Va être suffisamment attractive pour que les jeunes de la cité aient envie de venir, parce qu'ici, on ne commence pas par leur dire que ça, c'est mauvais, quoi, juste simplement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres, L'environnement, oui, alors vous savez, je ne suis pas non plus un ultra fanatique de l'église verte. Bon, d'accord, n'est-ce pas, Élisée, hein? J'aime bien chahuter Élisée sur ces sujets-là. Mais ça fait partie des choses qui angoissent les générations, les nouvelles générations, qui les angoissent, en tout cas qui les préoccupent. Angoisse, tout le monde n'est pas angoissé peut-être. Et ce n'est pas illégitime. Voilà, même si la façon de le présenter, des fois, me dérange personnellement, mais peu importe. Je pense qu'il faut aussi que ces sujets-là, on soit capable de les intégrer parce que ça fait partie de la vie des générations d'aujourd'hui. Et si notre Église veut être intergénérationnelle, il ne faut pas juste dire il y a un certain nombre de sujets qui ne nous concernent pas, vous les laissez à la porte, et puis nous, on s'occupe, on vous dit ce qu'il faut penser et on vous dit ce qu'il faut faire. Et je le dis pour moi, hein, comme pour d'autres, donc n'hésitez pas à me rentrer dedans quand je suis désagréable, hein, Élisée, quand je suis désagréable sur l'Église verte. Voilà. Et juste... Pour terminer, on a quelques exemples dans la Bible de jeunes qui en ont remontré à des plus âgés. Premier exemple, l'appel de Samuel. Vous savez, Samuel qui deviendra le prophète Samuel. Il a été mis au service d'Élie, qui est le prophète de l'époque. Élie qui est vieux, qui est presque aveugle, qui peut plus faire grand-chose pour guider le peuple, dont même les fils sont complètement partis, ont dérapé, font n'importe quoi et piquent dans la caisse, si j'ose dire, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et Dieu appelle Samuel, Samuel, Samuel. Alors Samuel croit d'abord que c'est le prophète qui lui demande quelque chose. Et au bout d'un certain temps, au bout de trois fois, Élie comprend que tiens, par la bouche de Samuel, mais c'est vrai, Dieu parle encore à son peuple. Dieu peut encore parler. Et c'est Samuel qui était beaucoup plus jeune, je ne sais pas si c'était un enfant vraiment, mais il était beaucoup plus jeune qu'Élie, ça c'est sûr, et il en a remontré à Élie, et il a montré à Élie que oui, Dieu est encore capable de parler aujourd'hui. David et Goliath, David qui était jeune, et qui en a remontré à Saül et à tous ses grands généraux, qui étaient tous tremblants devant ce Goliath, et personne n'osait aller contre lui. Bon, vous connaissez l'histoire, on lui met une armure, il l'enlève, c'est trop lourd, il a juste sa fronde. Enfin, on a des chansons qui racontent ces choses-là qu'on a appris pour certains quand on était enfant. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que David dit à Goliath, « Toi, tu viens avec moi avec ta lance et ton bouclier, et moi, je marche au nom de l'Éternel des armées. » Et c'est cette phrase-là qui a dû résonner dans la tête de Saül et d'un certain nombre de grands de l'époque. C'est un jeune qui leur a rappelé des choses comme celle-là. J'avais noté encore Shadrach, Meshach, Abednego, vous savez, les trois compagnons de Daniel qui se sont mis dans la fournaise ardente. Et puis, au bout d'un moment, ils sont pas, voilà, ils sont incombustibles. Ils étaient en Kevlar, sans doute. Et donc, ils sortent. Et c'est Nebuchadnezzar qui était le roi et qui était en plus très autoritaire, qui ne peut dire qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Ce sont des jeunes qui en ont remontré à quelqu'un de plus âgé. Et l'apôtre Paul accompagne un certain jeune homme qui s'appelle Timothée. Et non seulement dans l'épître qu'il lui écrit, il lui dit « Mais que personne ne te reproche ta jeunesse, sois simplement fidèle et un bon serviteur de l'Évangile. » C'est ça qu'il lui dit. Et dans une autre épître, dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 16, il dit aux gens, mais accompagnez Timothée, soyez attentifs à lui, parce qu'il est jeune, parce qu'il est fragile, et profitez pas de sa jeunesse. Donc voilà, on voit que par plusieurs exemples, effectivement, le Seigneur parle, il parle pas seulement aux vieux pour enseigner les jeunes, mais il parle à toute l'Église, à toute son Église. Allez, cette fois, je vais vraiment terminer. Et je termine avec... un verset du livre du prophète Ésaïe qui dit « Me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servons de signes et de présages en Israël. » Alors que notre Église, par son côté intergénérationnel, nous et les enfants que le Seigneur nous a donnés, en mettant ça avec un sens très très large, nous puissions servir de signes avant d'œuvre à notre environnement, au monde de façon générale, même si... Notre influence est souvent limitée régionalement, juste parce que nous montrons que nous sommes capables de vivre ensemble, de transmettre des choses, parce que nous sommes surtout ancrés sur ce que nous avons vu, entendu, les louanges de Dieu, ses miracles et la façon dont il nous a nourris et nous a fait grandir. Et donc, j'avais proposé, si on peut chanter mon dernier chant quand même. Voilà. C'est quoi mon dernier chant? Qui c'est qui a dit ça? Bravo, vous avez gagné un sucre d'orge. On va chanter « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Et je pense que je vais vous inviter à vous lever pour chanter ça, et je laisse la place à Dominique pour conclure ce culte.